Elisabeth Le Quéret.
Tout à l'heure, à partir de 15h10 TU.
RFI, 7h30 à Paris, 6h30 en temps universel.
Le journal Nemo en Peace.
Non, en République démocratique du Congo, le salaire minimum ne sera pas doublé au 1er février. Il était censé passer sur décision du ministre du Travail de 2,5 à 5 dollars américains par jour. Mais Judith Suminwa, la première ministre, s'y oppose pour le moment. Nous sommes à Kinshasa dans un instant. Puis dans l'est du pays, où les personnes contraintes de fuir leur domicile se comptent en centaines de milliers en ce début d'année. 150 000, rien qu'au Nord-Kivu, depuis le 1er janvier, l'ONU parle d'une situation alarmante. Elle est, selon les défenseurs des droits humains, un symbole de la répression au Cameroun. Dorgelès Nguessan, arrêtée lors de la première manifestation de sa vie en 2020, elle a passé plus de 4 ans derrière les barreaux avant qu'une cour d'appel ne décide cette semaine de revenir sur cette décision. Et puis notre dossier ce matin, vous en avez peut-être régulièrement dans vos assiettes, le gombo, ce légume qui habituellement pousse dans des zones tropicales. Eh bien, une nouvelle ONG a réussi à en cultiver en région parisienne, ce qui pourrait permettre aux diasporas de se fournir localement. C'est un espoir qui s'envole chez les travailleurs congolais, celui d'une hausse du salaire minimum. Le nouveau SMIG, sur décision du ministre du Travail, devait passer de 2,5 à 5 dollars américains par jour, et cela à partir du 1er février. C'était sans compter sur l'intervention de la première ministre Judith Suminwa, qui ce week-end s'y est opposée. RFI Kinshasa, Pascal Moulégua.
Les fonctionnaires, agents de l'État et travailleurs du secteur privé se frottaient déjà les mains. Leur salaire allait doubler pour la plupart d'eux le mois prochain. Mais les refus de la première ministre, Judith Suminwa, repose d'abord sur la forme. Elle souligne que son ministre du Travail ne peut décider unilatéralement d'une telle mesure et que seule la primature peut signer un tel décret. Et sur le fond, la chef du gouvernement affirme que ni les syndicats ni les conseils nationaux du travail n'ont été sollicités par les ministres avant la signature de son arrêté. Les patronats congolais des entreprises avaient déjà critiqué cette mesure, allant jusqu'à solliciter du ministre une harmonisation des points de vue. Les ministres, qui avaient pourtant assuré à RFI que la décision avait été prise à la suite d'un dialogue social engagé en octobre dernier avec les organisations patronales et les syndicats des travailleurs. L'objectif, selon lui, était de réduire l'écart croissant entre les salaires minimums et les coûts de la vie. La première ministre dit attendre des éléments saillants avant de signer un décret relatif au SMIC. Pascal Moulégua, Kinshasa, RFI.
La RDC ou le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'inquiète une nouvelle fois des déplacements massifs de population dans l'est du pays. En moins de 3 semaines, plus de 237 000 personnes ont dû quitter leur domicile, conséquence des affrontements qui s'intensifient entre groupes armés et armées congolaises. 150 000, rien que dans la province du Nord Kivu, toujours en proie au conflit qui oppose l'armée au groupe armé du M23 soutenu par le Rwanda. Abdoulaye Barry est le chef de bureau du HCR dans le Nord et le Sud Kivu. Ce matin sur RFI, il parle d'une situation alarmante et très préoccupante.
Du côté du Sud Kivu, nous avons enregistré plus de 84 000 personnes déplacées suite aux affrontements entre les FRDC et le groupe rebelle Goumignon. Actuellement, les deux provinces Nord et Sud Kivu comptent plus de 4,6 millions de personnes déplacées. Les conditions de vie dans les sites sont extrêmement difficiles, avec des ressources très limitées pour le HCR et les autres acteurs. Nous pensons que des efforts doivent être faits pour que ces affrontements cessent, parce que chaque fois qu'il y a eu des affrontements, c'est des déplacements de personnes. Tous les sites des IDP sont bondés et aussi beaucoup de déplacés sont actuellement dans des centres collectifs et d'autres sont hébergés dans des familles d'accueil.
Abdoulaye Barry avec Paul Lorgerie, la RDC où l'on apprend par la voix de Molifi, secrétaire d'État américaine adjointe sortante chargée des affaires africaines, dans un entretien à l'agence France Presse, que le couloir de l'Obito aurait pu être étendu notamment à travers l'est de la RDC, cela en cas de stabilisation de la situation. Le couloir de l'Obito, ce projet américain emblématique sur le continent, visité par Joe Biden le mois dernier, qui vise à accélérer le transport des minerais du sud de la RDC et de la Zambie jusqu'à la côte atlantique de l'Angola. La représentante américaine a également évoqué l'existence d'un cadre négocié par les parties, cadre dont semble s'être éloigné le Rwanda selon elle. Washington qui pointe une nouvelle fois du doigt à Kigali pour son soutien au groupe armé M23, mais aussi Kinshasa pour son manque d'action face au FDLR. Plus de 4 ans de détention pour finalement une peine réduite à 6 mois. Au Cameroun, Dorgelès Nguessan a été libéré hier. Cette mère célibataire avait été arrêtée à Douala le 22 septembre 2020, alors qu'elle manifestait pour la première fois de sa vie à l'appel du MRC de Maurice Kamto, qui contestait à l'époque les résultats de la présidentielle de 2018. Le rassemblement avait été interdit par les autorités et comme Dorgelès, 500 autres personnes avaient été interpellées. Elle avait été déclarée coupable d'insurrection, condamnée à 5 ans de prison ferme. Et finalement, cette semaine, la cour d'appel du littoral est revenue sur cette décision, abandonnant les charges d'insurrection. Pour Jean-Claude Fognaud, secrétaire exécutif de l'ONG Mandela Center International, le cas de Dorgelès Nguessan est emblématique de la répression au Cameroun.
Elle a exercé juste son droit de manifester. Mais elle a été arrêtée pour le seul fait qu'elle ait demandé aux autorités camerounaises de mieux gérer le pays. Elle a passé pratiquement 5 ans en prison alors qu'elle n'aurait jamais dû, je dis jamais dû, se retrouver dans ces lieux. Elle était la seule femme qui était encore en détention. Ces militants n'ont fait qu'exercer leurs droits civiques. Il s'agissait là d'une marche pacifique. Même s'il y avait ces manifestations illégales, mais la loi réprime ces manifestations pour un maximum de 6 mois d'emprisonnement. Mais ils ont passé plusieurs années en détention. Le pouvoir utilise le tribunal militaire pour réprimer toute dissidence. Alors que, selon les instruments juridiques internationaux ratifiés par le Cameroun, aucun civil ne saurait être jugé par un tribunal militaire.
Jean-Claude Fognaud avec Amélie Tulé. Amnesty International signale que parmi les manifestants arrêtés en 2020, 38 sont toujours en détention arbitraire. Le Tchad dans ce journal avec cette affaire qui remonte au 5 janvier dernier à la sortie d'Abéché, chef-lieu de la région du Wadaï dans l'est du pays, où un transporteur d'or brut a été la cible de braqueurs alors qu'il prenait la route vers la capitale avec une cargaison de plus de 25 kilos d'or. N'Djamena pour RFI, Nadia Ben Mahfoud.
Selon un marchand d'or d'Abéché, au moins 20 commerçants avaient confié de l'or brut non travaillé à un transporteur afin que leur marchandise soit acheminée à N'Djamena, où elle est habituellement revendue ou envoyée au Moyen-Orient. Mais à la sortie d'Abéché, le transporteur a été attaqué par une voiture avec à son bord 4 individus armés. Le transporteur et l'ensemble de sa cargaison ont été emmenés par les 4 braqueurs atinés dans la province du Wadi Fira, à la frontière avec le Soudan. C'est là que 3 d'entre eux ont été interpellés en compagnie d'un complice il y a quelques jours. Selon une source proche du dossier, l'interpellation a permis de mettre la main sur les armes qui ont servi au braquage, sur de l'argent en devise ainsi que sur une petite partie de l'or dérobé. Seuls 1,6 kg d'or ont été retrouvés sur les plus de 25 kg que comptait la cargaison. L'étendue du préjudice est évaluée à environ 1,2 milliard de francs CFA, détaille la source. Avant d'expliquer que l'or brut volé est tchadien, extrait dans les sites d'orpaillage de Koury Bougoudi et Koury 35 à Faya Larjo. À cause de la sensibilité de l'affaire, le tribunal d'Abéché a été dessaisi au profit de celui de N'Djamena. Les 3 braqueurs présumés et leurs complices ont été transférés dans la capitale. Nadia Ben Mahfoud, N'Djamena, RFI.
J'ajoute que le 4e braqueur est toujours en fuite dans la zone de Tiné, mais les recherches continuent en collaboration avec le gouverneur du Wadi Fira. Au volet économie de ce journal, une banque burkinabé qui arrive sur le marché français. Vista Group, basée à Ouagadougou, a déjà acheté des filiales africaines de certaines banques françaises et appartient au groupe américain Lilium. Et à l'heure où les banques françaises quittent le continent africain, elle va faire son entrée sur le marché européen dans le courant de l'année. Plus de précisions avec Alexis Bédu.
C'est la première opération de la banque burkinabé en dehors de l'Afrique, un moyen pour Vista Group d'élargir sa base d'investisseurs, de gagner en notoriété tout en ayant accès au marché des capitaux, cet espace où s'échangent des ressources financières bénéfiques pour les pays africains et pour la diaspora présente en Europe, estime Simon Thiem-Toré, le président du groupe bancaire.
Cette diaspora qui est assez dynamique et qui est grande contributrice à nos économies. Et donc il faut un moyen pour pouvoir faciliter effectivement cette transaction-là, pour pouvoir faire la promotion des opportunités en Afrique auprès de cette diaspora qui est entrepreneuse d'ailleurs partout où elle habite et qui aimerait revenir investir en Afrique.
Vista Group a racheté les unités au Burkina Faso et au Mozambique de la Société Générale, ainsi que la BNP Paribas en Guinée ou au Burkina. Ce retrait des banques européennes est un phénomène global, selon Simon Thiem-Toré.
Tous les grands groupes bancaires, tels que BNP, Société Générale, Standard Chartered, quittent les marchés émergents pour des raisons réglementaires. Et donc, on est dans l'obligation, nous, de faire le sens contraire après la reprise de ces banques pour nous donner les moyens de pouvoir supporter nos entreprises, nos pays, nos PME et nos entrepreneurs.
Arrivée prévue en France au second semestre de cette année avant une implantation en Asie.
Alexis Bédu du service économie de Radio France Internationale. Et puis notre dossier ce matin consacré à la culture du gombo, ce légume qui pousse essentiellement dans les zones tropicales. Il est également consommé en Europe par les diasporas et notamment en France. On le trouve dans certaines épiceries importées d'Amérique du Sud ou d'Inde, mais qui pourraient désormais être produits localement. L'ONG GRDR, Citoyenneté Développement, s'est lancée dans l'expérimentation de la culture du gombo en Île-de-France. Après 2 années d'essai, les résultats ont été restitués à Bondy sur le site de l'Institut de Recherche et de Développement. C'est un sujet signé Penaï Traoré.
Voilà la plante de gombo. Donc, déjà, c'est une plante qui est magnifique.
L'objectif de cette initiative du GRDR est de susciter l'intérêt des diasporas africaines pour la filière agricole en Île-de-France. L'expérimentation a été concluante. Ibrahim Diabagaté est le responsable des programmes entrepreneuriat, économie sociale et solidaire de l'organisation.
On accompagne des personnes ici d'ailleurs. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, peut-être il y a des cultures qui se faisaient dans leur pays d'origine qu'on pourrait les expérimenter en Île-de-France. D'où l'expérimentation du gombo, parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont ici de l'Afrique. La première chose, c'était de savoir déjà si ça pouvait pousser. Donc là, on s'est rendu compte que oui, ça peut pousser. Maintenant, c'est faire en sorte qu'on puisse en faire un produit commercialisable.
La chef cuisinière Philly Gay a animé un atelier cuisine sur la préparation du gombo.
Je suis en train de cuisiner le chou. C'est une recette sénégalaise. Donc, c'est une sauce à base de tomates, du compoté d'oignons et du gombo qu'on a laissé mijoter.
Allô ! Ça se passe ici. Apparemment, c'est bon pour les gens qui veulent manger.
L'occasion de faire découvrir le goût de ce légume aux enfants qui ont pu profiter d'une dégustation.
J'ai découvert ça, me donne envie de goûter.
Quand on m'a dit que c'était gluant, j'ai eu moins envie de le goûter.
C'était très bien. Les gens ils s'intéressaient à des légumes du coup, qu'on ne connaissait pas forcément et qui les faisaient découvrir aux enfants et même et aux adultes aussi.
Le GRDR souhaite réitérer l'expérience, cette fois avec d'autres produits.
Une expérience mise en place dans une ferme à Chelles, en région parisienne, sous serre, mais aussi en plein champ. Et 16 kilos au total ont été récoltés au mois d'août et de septembre 2024. La propriétaire de cette ferme, Anan Bouzidi Somi, nous explique comment elle a procédé pour cultiver le légume.
On a mis en place 2 années d'expérimentation. Une première année qui a été un échec total, on peut le dire. Parce que dans l'expérimentation, c'est ça. Quand ça marche pas, c'est très riche d'enseignements pour savoir comment faire pour que ça marche. Donc la deuxième année, en 2024, on a changé notre protocole, c'est-à-dire qu'au lieu de semer directement en terre, là, on a acheté des graines, 3 variétés différentes. Ces variétés ont des caractéristiques différentes. Et donc là, on les a semées d'abord dans des plaques alvéolées, puis repiquées en godets, puis planté directement dans le sol 1 mois plus tard. Donc la procédure a été mieux maîtrisée depuis l'achat des graines jusqu'à la plantation, et ce qui fait qu'on a eu un meilleur résultat aussi sur la récolte. La culture a été irriguée par goutte à goutte, donc un apport d'eau régulier, sous serre, c'était parfait.
Anan Bouzidi Somi avec Penaï Traoré, vous la retrouvez ce samedi à partir de 13h10, temps universel dans l'émission Un jour au village consacré, donc vous l'avez compris, à l'expérimentation du gombo en Île-de-France. Et puis un mot de sport avec la 6e et dernière journée de la phase de groupe de Ligue des Champions qui se poursuit ce samedi. Le tout-puissant Mazembe reçoit les Soudanais d'Al Hilal d'Omdurman. Coup d'envoi 13h, temps universel. Le club de Lubumbashi déjà éliminé de cette compétition.